Pause d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Les acteurs du livre. Troisième émission et dernière émission sur ce thème. Après le témoignage de deux éditrices, puis de deux libraires, voici ce soir le témoignage d'une lectrice. Le temps, hélas, ne nous permet pas d'accueillir plusieurs lecteurs. Quant aux acteurs, autres que les libraires, les éditeurs et les lecteurs, et je pense avant tout, bien sûr, aux auteurs, on ne les oublie pas. Nous les accueillons régulièrement et nous continuerons de le faire en priorité dans cette émission Parole d'écriture. Dans la deuxième partie de cette émission, nous esquisserons une vision globale des renaissances en cours à partir de ces témoignages que nous avons recueillis. Mais dans cette première partie, nous accueillons Nathalie. Mère de famille, juriste, 45 ans, réside à Aix-en-Provence, elle a plusieurs passions. La randonnée, la cuisine, l'opéra et la lecture. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Alors merci beaucoup de nous accueillir pour cet entretien à distance. Et je vous propose, si vous voulez Nathalie, une série de questions. Puis je vous laisserai le temps de répondre, car pour nous à l'antenne, c'est la personne accueillie qui est mise en valeur et non pas l'animateur. Alors ces questions, d'où vient votre goût de la lecture? Qu'est-ce que vous lisez? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous choisissez vos livres? Comment vous voyez le devenir du livre? Et puis, prenez votre temps, vous avez largement le temps pour nous répondre. Je vous propose ensuite peut-être de choisir un livre récent, puis de nous en faire partager un extrait. On vous écoute, Nathalie.
D'accord. Eh bien, écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur votre antenne. Je n'ai pas l'habitude de ce type d'exercice, mais c'est avec un grand plaisir que je vais échanger avec vous sur mon goût pour la lecture. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne mes choix et comment je suis venue à la lecture, je peux vous dire que je lis depuis très longtemps, depuis l'âge de 5-6 ans, et que la lecture a toujours été un moment de partage, d'abord en famille et ensuite à titre amical, et un moment d'échange. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont monté un club lecture sur Aix-en-Provence, et qui me font partager à la fois leurs choix, leurs échanges, et nous choisissons ensemble, soit sur la base de notre bibliothèque personnelle, soit à chaque rentrée littéraire, de mutualiser nos livres récemment achetés, ou plus anciennement achetés. Et nous partageons ainsi différentes lectures. Et puis nous échangeons sur nos impressions, nos sentiments, et sur ce que tel ou tel livre nous a apporté, ou comment il nous a interpellés. Donc je peux vous dire que la lecture, c'est quelque chose qui m'apaise. C'est un moment de plaisir, de distraction. C'est aussi un moment qui me permet d'essayer de comprendre la complexité du monde qui nous entoure et puis la complexité de l'être humain aussi. C'est un moment d'oubli, un temps de calme qui me permet aussi de réfléchir. Voilà. C'est un filtre, le livre est un filtre. C'est un média entre moi et puis l'extérieur. Voilà. J'ai coutume de dire que le choix d'un livre peut être un hasard, mais que à la fin, on y retrouve quelque chose et qu'on s'aperçoit que peut-être ça n'était pas par hasard que le livre a été choisi. Alors, vous m'avez demandé où j'achetais mes livres, peut-être, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Oui. Alors, la plupart du temps, je mets un point d'honneur à acheter mes livres en librairie. Ou je vais demander un livre en bibliothèque. mais j'accorde beaucoup d'importance à l'achat des livres en librairie. D'abord parce que ça me permet d'échanger avec le libraire. Si j'ai une interrogation ou si j'ai un conseil à demander par rapport à tel ou tel livre. Et puis, je trouve que c'est très important de garder nos librairies à proximité dans les villes et que ce sont des lieux qui permettent d'échanger, de faire vivre réellement la lecture et la culture, voilà, au centre de la ville. Je préfère les acheter comme ça. Je n'achète pas par Internet, mais je respecte tout à fait le fait qu'on puisse acheter par Internet. Ce que m'apporte la lecture, entre autres choses, c'est ce besoin que j'ai. C'est un moment pour moi aussi de liberté qui me permet, dans des moments soit difficiles, qu'on tout un chacun peut rencontrer dans la vie, soit dans des moments d'interrogation, de pouvoir m'interroger, me retrouver aussi. Et je trouve que c'est très important de se réserver ce temps pour chaque lecteur. Voilà. Et vous m'avez demandé peut-être un livre récent aussi, je crois.
Oui.
Alors, quand vous dites livre récent, c'est livre récemment publié ?
Non, il est récemment lu par vous.
Alors, écoutez, j'ai lu dernièrement un livre qui m'a beaucoup émue, qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme » et qui a été écrit par une femme, une historienne, Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015, qui est un livre extraordinaire qui donne la parole à ces femmes russes qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il y a plus d'un million de femmes qui ont fait la guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un livre qui m'a énormément émue parce que c'est un livre qui raconte la guerre, la mort et l'expérience du combat qu'ont vécu toutes ces femmes qui ont été à la fois tireurs d'élite, mécaniciens, pilotes d'avion, mitrailleurs et autres. Et en fait, c'est un livre qui s'est avéré être un livre sur le désir de vivre et qui m'a énormément émue et qui fait écho un petit peu dans les temps difficiles que nous traversons. C'est un livre qui a donné la parole à des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce que les femmes au combat, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui existe et qui a existé et qui existe encore. Mais on n'a pas l'habitude, en tout cas moi, je n'avais pas lu de témoignages de femmes qui avaient combattu pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front russe. Et je peux vous proposer un extrait, je ne sais pas si je peux.
Si, volontiers, très volontiers.
Là-bas, au milieu de la fumée, je n'avais pas fait de différence. J'avais vu un homme près de mourir, un homme qui hurlait de douleur. Tous les deux étaient brûlés, noircis, leurs vêtements en loques. Pareils tous les deux. Et là, en regardant mieux, je me rends compte qu'il porte un médaillon étranger, une montre étrangère, que tout sur lui est étranger. Que faire ? Je traîne notre blessé et je pense, est-ce que je retourne chercher l'Allemand ou non ? Or, il restait très peu de distance à franchir. Je savais que si je l'abandonnais, il mourrait au bout de quelques heures, d'hémorragie. Alors j'ai rampé pour aller le récupérer. J'ai continué à les traîner tous les deux, à tenter de sauver leur vie. On était pourtant à Stalingrad, aux heures les plus effroyables de la guerre. Et malgré tout, je ne pouvais pas tuer, abandonner un mourant, ma très précieuse. On ne peut pas avoir un cœur pour la haine et un autre pour l'amour. L'homme n'a qu'un seul cœur et j'ai toujours pensé à préserver le mien. Voilà, c'est l'extrait que je voulais vous faire partager ce soir sur ce livre.
C'est très beau.
Et puis récemment, je me permets aussi...
Je vous en prie.
Je ne sais pas si on peut conseiller ou
si,
partager.
Oui.
Écoutez, j'ai découvert, on m'a offert donc par le biais du Club Lecture, le dernier livre d'un auteur qui s'appelle Philippe Génada. Livre qui est sorti chez Juillard et qui s'appelle « La petite femelle ». Et qui est un livre dans lequel l'auteur nous raconte le procès, un procès qui s'est passé dans les années 50 à propos d'une femme qui s'appelait Pauline Buisson et qui avait été accusé d'avoir tué de sang-froid son amant. Et il s'est livré à une véritable enquête, à la fois journalistique et, on peut dire, historique, pour essayer de réhabiliter cette femme. Et il a refait un peu le procès pour essayer de réhabiliter cette femme qui a été peut-être condamnée trop vite. Une femme qui a été très controversée à l'époque. Voilà. Et donc, c'est un livre qui est passionnant, que j'ai commencé, que je n'ai pas encore fini, car c'est un livre qui contient de nombreuses pages. Il fait quand même plus de 700 pages.
En effet.
Donc, je le conseille. Et je me permets aussi de conseiller, parce que j'ai deux ouvrages aussi, là, qui me paraissent très, très intéressants. C'est Cosmos de Michel Onfray.
Oui, bien sûr.
Que j'apprécie énormément. Je suis à la moitié. C'est un livre très important aussi. Mmh. Et puis, nous avons Aix-en-Provence, un formidable historien qui s'appelle Paul Vein, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Palmyre, l'irremplaçable trésor, et qui est un livre témoignage sur son sujet d'étude principal, l'antiquité gréco-romaine et la cité de Palmyre, que nous ne verrons plus, on peut le dire aujourd'hui, et qui est un livre extraordinaire dans lequel il rend hommage à la fois à toute cette histoire sur cette cité monumentale et puis bien au directeur syrien qui a été assassiné par le groupe terroriste Daesh en 2015. Voilà, il lui rend hommage et Paul Vein nous explique toute l'histoire de cette cité et toute l'histoire entre la rencontre entre ce monde gréco-romain et le monde perse. Voilà, il parle très bien de tout cela et j'ai trouvé ce livre m'a beaucoup éclairé à la fois sur ce qui se passe aujourd'hui et puis sur toute cette histoire culturelle de cette merveilleuse cité. Voilà, je conseille ce livre parce que je le trouve très important. C'est un témoignage qui est très intéressant.
Alors Nathalie, je vous remercie. Ce que vous dites me touche beaucoup. D'abord parce que j'ai connu Palmyre il y a une quinzaine d'années, donc à l'époque où c'était encore debout, avant que tout ce qui se passe. Et puis vous nous rappelez que Aix-en-Provence, c'est quand même la ville de grands historiens. Il y a eu Duby, grand spécialiste du Moyen-Âge, et puis celui que vous mentionnez, que je vais interviewer l'an prochain. Nous avons retenu une émission l'an prochain, ensemble, sur Parole d'écriture, car c'est quand même un grand écrivain. Oui. Effectivement, son livre est tout à fait exceptionnel.
Oui, c'est un livre qui est très émouvant. Il dit lui-même « C'était mon devoir d'ancien professeur et d'être humain de dire ma stupéfaction devant ce saccage incompréhensible. » Mais c'est vraiment un livre, moi, qui n'ai pas, évidemment, les connaissances de Paul Vein et qui ne connaîtrait jamais Palmyre. Mmh. J'avais effectivement besoin, quand je vous disais que la lecture permet aussi de s'interroger par rapport à la complexité du monde qui nous entoure, notre histoire et la complexité de l'être humain. Je crois que Palmyre est un formidable condensé de toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui.
Voilà. Tout à fait, tout à fait. Finalement, vous mettez très bien en valeur, Nathalie, que la lecture, c'est s'explorer soi-même, mais c'est aussi constamment explorer le monde.
Oui, tout à fait.
Alors, Nathalie, je me permets de vous poser le questionnaire que nous posons ici à un certain nombre de personnes que nous accueillons. Ça n'a rien à voir avec, encore une fois, le questionnaire de Bernard Pivot, ni celui de Marcel Proust. Je l'ai nommé questionnaire sur mon voyage. Alors, il comporte 12 questions, et si vous voulez, je vous propose de les poser, et vous avez droit à tous les jokers que vous voulez. Trois mots qui, pour vous, rendent présent votre enfance.
Qui représente mon enfance.
Oui, qui rend présent votre enfance.
Je dirais douceur, solitude, et puis spontanéité.
Mmh. Trois personnes vivantes que vous admirez le plus.
Ah, trois personnes vivantes que j'admire le plus. Eh bien, écoutez, je vais pas donner les noms, mais elles se reconnaîtront. Patricia, Daniel et Robert.
Voilà, trois personnes qui vous entourent, comme quoi parfois, dans notre entourage, dans l'ordinaire, il y a de l'extraordinaire. Vous êtes d'accord ?
Bien sûr, bien sûr.
Alors, à ce jour, qu'est-ce que vous avez, selon vous, le plus négligé de vous ?
Ah, qu'est-ce que j'ai le plus négligé de moi ? Eh bien, je dirais que peut-être ce que j'ai le plus négligé, ce sont mes peurs.
Mmh. Quels sont les trois rêves que vous voudriez faire pour la suite de votre voyage terrestre ?
Écoutez, les trois rêves... Mais j'aimerais pas que ce soit des rêves, je voudrais que ça devienne la réalité. Accéder à une certaine forme de bienveillance et de paix avec moi-même et avec les autres. Garder ma curiosité et pouvoir assouvir ce besoin de comprendre et toujours l'envie d'avoir l'envie de comprendre l'autre, de comprendre le monde qui m'entoure. Et puis, un troisième rêve, peut-être plus de fraternité entre les hommes.
Selon vous, qu'est-ce que vous risquez de laisser en friche après votre mort dans votre vie ?
Des tas de choses. Bien que je m'astreigne à finir chaque tâche, je risque de laisser en friche des tas de choses. Parce que je pense qu'on n'a jamais terminé, vraiment.
C'est ce que je pense.
Mais ce qui est essentiel, si je peux laisser en friche quelque chose, que je pourrais transmettre. Parce que peut-être qu'il y aura une continuité.
Vous avez tous les pouvoirs, Nathalie. Quels sont les trois actes majeurs que vous posez ?
Trois actes majeurs que je poserai. Arrêter la guerre.
Mmh.
Ne plus faire en sorte que la souffrance des hommes puisse ne plus... qu'il y ait moins d'injustice, qu'il y ait moins de souffrance dans le monde.
Mmh.
Et puis... que la Terre puisse rester un écrin pour l'être humain.
Quelle est votre devise, Nathalie ?
Ma devise ? Ne jamais abandonner.
Selon vous, quels sont les trois mots qui vous viennent à l'esprit pour parler de l'autre ?
Découverte, amitié, et puis échange.
Quels sont les trois mots qui vous viennent à l'esprit pour parler du monde actuel ?
Incertitude, espérance et fraternité.
Quel est le sens de votre vie finalement, Nathalie, selon vous ?
Être utile.
Une question complémentaire. Il vous arrive d'écrire ?
Souvent.
Et vous comptez être publié ?
Non, mais j'écris pour tout un tas de raisons et avec beaucoup de plaisir. Mais pas dans le but d'être publié.
Merci beaucoup Nathalie. Vous nous donnez un très très beau témoignage. Du lecteur, et s'il y avait encore plus de lecteurs comme vous, mon Dieu, que le monde serait plus beau. En tout cas, merci, et merci de ce témoignage qui, encore une fois, met en valeur le partage, l'échange de la lecture et le fait que lire, c'est s'explorer soi-même, encore une fois, et c'est explorer le monde. Bonne chance et très très bonne lecture. Merci,
merci
Nathalie.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au terme de ces trois émissions sur les acteurs du livre, essayons d'esquisser une synthèse. Le monde du livre, comme tous les mondes de notre vie, sont en début du XXIe siècle, en évolution et parfois de façon assez tragique. Il en résulte des turbulences, des crises, des effondrements, des drames parfois, mais aussi, j'insiste, des renaissances. Il convient en ce domaine, comme dans tous les autres, de mettre en valeur ces renaissances. On parle tant de ce qui ne marche pas et si peu de ce qui avance, de ce qui surgit, de ce qui naît. Chaque jour, par les médias, nous sommes tellement envahis de ce qui ne va pas, encore une fois, qu'on finit par oublier ce qui est en train de naître. Avec la mondialisation, avec trop souvent la politique qui tue le politique, avec le pouvoir démesuré de l'argent, avec les insécurités, avec les désespérances, avec les drames divers. Oui, il y a tout ça, mais il y a aussi, j'insiste, au-delà, la perte, les pertes nombreuses, les déliances, un mot dont on parle trop peu, il y a encore une fois des renaissances. Il y a un nouveau monde qui surgit, cela et cela, pétri de solidarité, de convivialité. Oui, trop souvent, il y a quand même un réenchantement du monde et de la vie. À propos du livre, il n'est nullement question d'oublier les fermetures des libraires. Le monde de vente du livre par Internet, qui le réduit souvent à un objet. Les difficultés des éditeurs, les parcours difficiles pour se faire éditer. Le coût de la culture difficile à maintenir quand on est atteint par la paupérisation, comment encore prévoir un petit budget, si petit soit-il, pour acheter des livres ? Bien sûr, il y a toujours les bibliothèques, les médiathèques, mais on a envie parfois d'avoir ce livre précis. Oui, il y a des renaissances, je vous l'assure. Dans ces trois émissions, j'ai recensé un certain nombre de constats. Nous les accompagnerons de quelques morceaux de musique. Le premier constat, c'est que la situation du livre et de ses acteurs est protéiforme, elle est plurielle. Il convient de discerner et de tenir compte de nombreuses spécificités. Il y a par exemple les petits éditeurs, les éditeurs indépendants, les éditeurs moyens, les grands éditeurs, comme les libraires, comme les auteurs. Bref, le monde du livre est un monde pluriel et il faut toujours s'en souvenir. Le deuxième constat vient d'être mis en valeur par un sondage récent du journal Ouest France, le 20 mars 2016 exactement, qui nous indique ceci. Si 15% des sondés admettent ne jamais lire, 32% disent lire entre 1 et 4 livres par an et 23% entre 5 et 9 livres, soit entre 1 et 9 livres, 55%. 55%, c'est quand même une évolution, selon ce sondage, bien sûr, car ce 55%, en 2016, n'était que 36% en 2006. Le troisième constat, c'est que le métier de libraire évolue profondément. Selon la belle formule de Corinne, fondatrice et directrice de la librairie L'Annexe à Malocène, dans le Vaucluse, elle dit « Mon métier de libraire repose sur l'amour des mots, du livre et des gens. » Rappelons qu'elle a quitté le secteur de la finance qui la conduisait à un bien meilleur salaire pour fonder une librairie. Elle confirme le bonheur de son choix et dit combien elle referait le même choix. Gérard, à Brignoles, est engagé. Il ose inventer, lui aussi, et il fait attention à tout ce qui peut renouveler l'approche du livre, à la fois pour ceux qui lisent aujourd'hui, qui lisent beaucoup, qui lisent peu, mais aussi d'aller vers ceux qui ne lisent pas. L'un et l'autre, Corinne et Gérard, sont soucieux d'aller, encore une fois, vers tous les publics. Et ils explorent toutes les démarches pour écouter, mettre en valeur et donner le désir de lire, puis, souvent, même si c'est de façon cachée, d'écrire. Alors, pour rendre hommage à Corinne, pour rendre courage aux cerises de Malocène, réécoutons d'Yves Montand le temps des cerises.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien.
Un quatrième constat, c'est celui-ci. À l'évidence, surgit une génération d'éditeurs indépendants de grande qualité. Ils savent magnifier des secteurs oubliés, des thèmes et des auteurs négligés ou de l'ombre. Ils proposent des ouvrages que l'on ne trouve pas ailleurs. Et en cela, ces éditeurs indépendants nous offrent une découverte de trésors surprenants pour réenchanter notre vie. Un cinquième constat, il y a, oui, cela a été abordé hier soir, une inflation des salons du livre. Trop, c'est trop. Certes, de grands salons comme celui de Montsartou, près de Grasse, le troisième en France, ces grands salons continueront. Mais quel avenir de ces salons considérés de plus en plus, comme Gérard ou Corinne, comme étant répétitifs, traditionnels, manquant de souffle? Bravo à Corinne pour son festival Amimo, qui implique toutes les composantes de sa ville et des environs. Bravo à Gérard, qui est engagé dans cette voie pour 2017 à Brignoles et pour les environs. Il y a 3 ans déjà, pour le Pays de Grasse historique, nous avions proposé ici à l'antenne une telle initiative impliquant autour du livre et des arts, dans une approche vivante et créatrice, de renouveler complètement cette démarche. Un sixième constat, c'est que acheter un livre est différent que d'accueillir un livre. Pour acheter, A ou de grandes surfaces suffisent. De plus, c'est rapide. Mais là aussi, chacun peut modifier ses habitudes. À titre personnel, par exemple, j'ai renoncé à A et à certaines grandes surfaces, et je vais voir le marchand de journaux de mon village. Oui, c'est plus long, c'est 8 à 12 jours en moyenne. Mais comme ça, je contribue à la vie du village, et si chacun agissait comme cela, peut-être que le marchand de journaux ne se poserait plus la question d'envisager fermer maintenant rapidement. Certes, on a rappelé hier soir que A fait 22% du marché, plus les grandes surfaces qui ne font que de vendre des livres comme il y a le rayon des légumes. Le livre ne se réduit pas à un objet ou à une marchandise. Et en cela, chacun est concerné. Chacun est invité à changer ses habitudes, à la fois à l'égard de la lecture, mais aussi de l'achat du livre. Et la beauté d'un livre, sa présence charnelle, nos traces personnelles sur les pages font de lui un compagnon. C'est quelque chose de fabuleux. Oui, écoutons ce passage de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, car le Nouveau Monde nous conduit à inventer un monde nouveau. Le septième constat, c'est que on peut se poser la question, alors demain, le livre électronique? Soyons prudents. Axel Kahn, que nous avons reçu récemment à l'antenne, a écrit avec Albert Jacquard, qui nous a quittés, hélas, un livre qui s'appelle « L'avenir n'est pas écrit ». Certes, le livre électronique devra se développer, sans aucun doute, mais le livre actuel a encore un très bel avenir. Regardez, chaque jour il s'embellit, devient plurimédia, comme le livre de Jacqueline Bellineau qui rajoute un CD à son livre, d'autres des photos extraordinaires. Le livre renouvelle sa beauté, sa saveur, son toucher. Oui, je crois que le livre a encore un très bel avenir, même si le livre électronique viendra inévitablement l'accompagner. Alors, tous les acteurs autour du livre sont concernés. L'éditeur, le libraire, l'auteur, le lecteur, tous nous avons à nous interroger pour savoir comment faire face à ce monde nouveau que nous devons inventer autour du livre, par le livre et pour le livre. Pour aller plus loin, suite à cet entretien si petit, si faible, je vous invite à aller explorer Internet. Vous y trouverez en particulier un article récent « Que vont devenir les livres ?». Lisez-le, faites-vous une idée. Personnellement, je suis assez réservé sur les conclusions de l'auteur. Regardez Télérama, si vous le voulez, il y a toujours des découvertes extraordinaires. Le magazine littéraire, le livre hebdo, et puis pour chaque région, il y a l'agence régionale du livre. Allez sur Internet, agence régionale du livre, vous y découvrirez énormément d'informations. Et puis, puisque nous parlons de la lecture, je voudrais vous conseiller un petit livre de Michèle Petit, qui est une femme, éloge de la lecture, la construction de soi. Un petit livre pas cher, je veille toujours à trouver des livres pas trop chers, celui-ci vaut 9,90 €. Et Michèle Petit a fait un ouvrage tout à fait remarquable, avec une bibliographie exceptionnelle. Elle conclut son livre de la façon suivante. Beaucoup de non-lecteurs croient qu'il y a dans les livres un secret et qu'ils en sont exclus. Et c'est une grande souffrance pour eux. De nombreux lecteurs pensent la même chose, qui plongent dans des piles de livres en chasse perpétuelle. J'ai espéré longtemps que le livre qui expirait tout existait, écrit Père Bourgogneau. Tous ont raison. Une immense partie de ce que les hommes et les femmes ont découvert est là, caché quelque part, et ne demande qu'à s'animer, qu'à être à nouveau rendu vivant. Prenez le temps, chers auditeurs, de prendre un livre entre vos mains et dans le silence, de lire calmement. Si vous ne pouvez chez vous, allez le faire à l'extérieur. Et à ce propos, je vais vous conseiller deux livres, dont l'un n'est pas encore sorti, mais que j'ai eu accès, qui est vraiment très très beau. Il va sortir le 6 avril. C'est un livre sur l'histoire du silence. Il est écrit par Alain Corbin, qui est un historien de la sensibilité tout à fait exceptionnel, et qui se dit « j'y pensais depuis une vingtaine d'années ». Je l'ai proposé comme sujet de thèse à des étudiants, mais ils n'en voulaient pas. Le silence aujourd'hui semble faire peur. Au passage, il faudrait s'interroger sur tous les sujets que les étudiants ne veulent pas prendre pour leur thèse. Il y aurait là de quoi faire un doctorat d'université pour les personnes âgées qui, eux, peut-être n'auraient pas peur de prendre ces sujets et qui apporteraient à la société des contributions tout à fait exceptionnelles. Ce livre est absolument magnifique. C'est un hommage au silence. Le silence, autrefois, nous dit l'auteur, témoignait de l'intensité de la rencontre amoureuse et semblait condition de la fusion. Il présageait la durée du sentiment. La vie du malade, la proximité de la mort, la présence de la tombe suscitaient une gamme de silences qui ne sont aujourd'hui que résiduels. Dans le passé, les hommes d'Occident, et les femmes bien sûr, goûtaient la profondeur et les saveurs du silence. Ils le considéraient comme la condition de recueillement, de l'écoute de soi, de la méditation, de l'oraison, de la rêverie, de la création, surtout comme le lieu intérieur d'où la parole émerge. Et puis, un autre livre, sorti en 2010, mais que sans doute, je pense, vous ne connaissez pas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est un Américain qui l'a écrit. Et Matthew Crawford a écrit en 2010, à la découverte, un livre qui a pour titre « Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail ». Alors, ce que nous dit cet auteur est absolument extraordinaire, parce qu'il renouvelle, il restaure, il revalorise le travail manuel. En nous rappelant au passage que la tension est une ressource dont nous ne disposons qu'en quantité finie. Et cet auteur qui constate que ce monde s'en va dans tous les sens, qu'il a oublié de faire silence, et qui nous rappelle que faire de la tension et du silence des biens communs, eh bien, il revendique le retour au travail manuel. Et je rends hommage à cet auteur qui rappelle aux intellectuels ou aux dis-intellectuels que, en l'occurrence, rien n'est plus beau que le travail manuel, que le travail de la main. Sans la main, que vaut la vie ? Finalement, en lisant ce livre, je me suis dit qu'il faudrait bien que tous les intellectuels sachent réparer leur moto. Voilà deux livres, au passage, que je vous conseille, parce que je les trouve très beaux. Et puis, je voudrais vous lire ce passage de Louis Lavelle, peut-être pour conclure cette émission, à propos de l'écriture et de la lecture. L'écriture est une parole, mais qui, au lieu de s'écouler dans le temps, se fixe dans la durée. Et le poète qui ne se contente pas de l'instant, cherche à garder la pensée qui le fuit, sait qu'il doit s'exprimer. Tout homme qui prend la plume désire que ce qu'il écrit demeure toujours. Il est facile d'en rire, mais respectons ce rêve. Entre la lecture et l'écriture, chers auditeurs, il y a une feuille de papier à cigarette. Si vous vous mettez à lire, je doute que vous ne mettiez pas à écrire. Voilà ce que l'on peut dire sur les auteurs du livre, les acteurs du livre, auteurs et acteurs. Voilà un petit point. Je voudrais, pour finir, dans le peu de temps qui nous reste, vous parler des émissions qui vont accompagner cette fin d'année. En avril, je vous donne, parce que les dates sont toujours le dernier vendredi de chaque mois, mais parfois d'autres dates, en avril, le vendredi 22, nous aurons une émission spéciale sur la maladie d'Alzheimer avec Jean-Claude Broutard, qui est un ancien chirurgien. Et comme senior, il est devenu chercheur et praticien de la maladie d'Alzheimer. Il réside dans la région PACA. Le vendredi 29, nous aurons Michel Serre, passeur pour le 21e siècle. Hélas, Michel est gravement malade et de l'Académie française, il nous a fait voir qu'il nous accompagnerait pour cette émission. Mais nous aurons des auditeurs de tous les âges. Quant à l'an prochain, je vous assure, nous franchirons les portes de l'Académie française et je vous réserve bien des surprises, mais je vous dirai en avril ce qui nous attend pour le mois de mai et pour le mois de juin. Chers auditeurs, bonsoir et très beau mois d'avril.